cette vie qui a inauguré l'Église a poussé la parole plus loin, et cette parole est arrivée jusqu'à nous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, de Jérusalem jusqu'à Angoulême, eh bien, le Saint-Esprit a porté des paroles de vie, a porté son évangile jusqu'à nous. Alors, merci Seigneur d'avoir fait venir ton évangile, ton esprit jusqu'à nous, afin qu'aujourd'hui nous puissions partager, voilà, partager sa vie, partager sa grâce, partager son amour, partager un moment de communion, partager des chants, partager l'amour de Christ qui se répand jusqu'aux extrémités de la terre. Nous vous accueillons au nom de Jésus, parce que c'est lui qui fait toute la valeur de ce rassemblement. Jésus est là, c'est lui qui va agir, c'est lui qui va nous bénir, c'est lui qui va nous parler. Il a fait des promesses, donc il a fait une promesse aux hommes, la promesse du Saint-Esprit, qui viendrait à la Pentecôte.
Dieu des quatre coins de l'horizon. Quand le peuple de Dieu se rassemble en ton nom. Quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent. Quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffées de toi. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Quand du milieu de nous, comme un parfum d'adoration, s'élève nos voix pour chanter, louer ton nom. Quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffées de toi. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là.
Nous remplissons un peu les conditions quand même, hein, puisque nous sommes tous rassemblés et que Jésus est là. Donc on est un peu dans les conditions qui nous sont citées dans la Pentecôte. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues de feu qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux, venus de toutes les nations du monde, séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles. Ils disaient « Voyons, ces gens qui parlent, ne viennent-ils pas tous de Galilée ? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer, chacun dans notre langue maternelle ?» Et là, il y a l'énumération d'une quinzaine de langues différentes. « Chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. » Ils n'en revenaient pas. Plongés dans la plus grande perplexité, ils se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ?» Mais d'autres tournaient la chose en ridicule. « C'est le vin doux, disaient-ils. Ils ont trop bu. » Alors, voilà des circonstances assez exceptionnelles grand bruit, vent violent, flamme de feu, langue. Voilà qui rappelle quand même certains signes qu'on avait déjà vus dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas ? Quand la puissance de Dieu se manifeste. La foule accourt à ce grand bruit, parce qu'un signe, c'est fait pour attirer l'attention. La foule accourt, étonnement, perplexité, interrogation. Alors là, la stupéfaction est à son comble. Personne n'a jamais vu ça. Chacun entend parler dans sa propre langue. Extraordinaire. Certains se demandent, que se passe-t-il ? Ça, c'est la bonne question à se poser. Puis il y en a, ils pensent qu'ils ont déjà trouvé la réponse. Ah, oui, ils ont trop bu. Voilà, le signe divise. Quand il y a un signe, ça nous force à prendre position. Est-ce que ce signe vient de Dieu ? Ou d'où est-ce qu'il vient ? Pourquoi il est là ? Ou alors, on peut dire, pouf, bon, c'est n'importe quoi, ils sont ivres. Donc, devant un signe, notre foi va être mise à l'épreuve. Je crois ou je ne crois pas ? Je pense que si on est là, c'est qu'on croit. Donc je vous propose de proclamer notre foi. Je crois en Jésus et nous croyons.
Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tous. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tous. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par ta grâce nous pardonner.
Alors, pourquoi ce signe et pas un autre ? Après tout, Dieu aurait pu donner un autre signe. Non, il a donné ce signe des langues. Parce que jusqu'à la Pentecôte, eh bien, l'hébreu était la seule langue avec laquelle on pouvait parler à Dieu, la seule langue dans laquelle on pouvait parler de Dieu. Bon, bah, ça limitait hein, à un peuple qui parlait une langue. Mais voilà que du coup, des langues nouvelles sont données pour que chacun, dans sa propre langue, partout, sur toute la terre, puisse parler à Dieu, s'adresser à lui, le prier, lui rendre gloire, et aussi témoigner à son prochain, à son frère, que ce Dieu-là, c'est lui qui est ressuscité, c'est lui qui est puissant. Alors, les Juifs sont tout étonnés, parce qu'ils constatent aussi que les non-juifs reçoivent l'esprit. Ben voilà, ils pensaient qu'ils étaient le seul peuple élu. Eh bien non, il y a d'autres peuples qui sont élus dans la grâce de Dieu. Donc on le voit dans Actes 10, 45, les croyants juifs qui étaient venus avec Pierre furent très étonnés de voir que l'Esprit Saint était aussi donné et répandu sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en différentes langues et célébrer la grandeur de Dieu. Ça, c'est un signe aussi. Et quand il y a un signe, c'est toujours un défi pour nous. Je vous laisse juste cette parole, parce que je crois que nous avons, en tant qu'Église, des défis devant nous. Et Dieu nous les pose, et puis à nous de les relever par la foi. Donc l'événement miraculeux de cette Pentecôte, ce n'est pas seulement les langues de feu, ce n'est pas seulement les langues diverses, c'est une effusion de l'Esprit qui rassemble tous les croyants. Elle brise les frontières. Les langues avaient été séparées à Babel. C'était un jugement. Comme les hommes voulaient faire une vie sans Dieu, ben Dieu a séparé les langues, si bien que chacun est parti de son côté. Impossible de se rassembler. Mais par contre, à la Pentecôte, c'est tout l'inverse. Ça rassemble. L'Esprit rassemble ceux qui croient. Ça, c'est le fondement de l'unité de l'Église, le Saint-Esprit. Donc, ils sont tous là, et après avoir reçu ce Saint-Esprit, ils sortent de leur chambre. Et ils vont où ? Sur la place publique. Donc Pierre, qui se cachait, qui avait renié Jésus, bon, c'était quand même... ça ne devait pas être facile pour lui, mais revêtu du Saint-Esprit, il sort et il va expliquer ce signe. Parce qu'un signe sans enseignement, ben, ça reste un petit peu mystérieux. Donc Pierre va prêcher et il va dire dans Actes 2, 32, « Dieu a ressuscité des morts ce Jésus dont je parle. Nous en sommes tous témoins. Ensuite, il a été élevé pour siéger à la droite de Dieu. Et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint et l'a répandu sur nous. C'est là ce que vous voyez et entendez. » Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Du coup, ils demandèrent à Pierre, oh, « Mais frères, que devons-nous faire ?» Ça, c'est la bonne question. Pierre leur répondit, « Changez, repentez-vous, selon les versions, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors, vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, fera venir à lui. » Là, je ne vois pas une promesse plus large que ça, ça me paraît totalement impossible. Donc, nous sommes tous sollicités. Si quelques-uns parmi nous n'ont pas fait la paix avec Dieu, s'ils n'ont pas donné leur vie au Seigneur, s'ils n'ont pas reçu ce salut, s'ils n'ont pas reçu cet esprit, eh bien aujourd'hui c'est vraiment le moment propice pour le faire, parce que Dieu est là, il entend les prières, même celles qui restent silencieuses. Et si quelqu'un ce matin veut devenir quelqu'un de nouveau et être habité par l'Esprit, je vous propose de le faire dans le silence. Nous chanterons un chant qui est Majesté, qui va permettre à chacun de se repositionner devant Dieu. Nous aurons un temps de prière. Voilà. Ce moment sera clôturé par un chant. Dans ce chant, nous pourrons aussi participer à l'œuvre de Dieu en donnant de nos biens. Parce que Hébreux 13, 15 nous dit « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. » Ça, on l'a fait. « Le fruit de louange qui confesse son nom. » On vient de le faire. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Donc, nous allons réjouir le cœur de notre Dieu par nos louanges, par nos prières et aussi par nos offrandes.
Voici, confondu par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée. Me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau. Car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. me voici, fondu par ton amour, pardonné, je pardonne en retour. Me voici, conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire. Car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Me voici. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur. Puisqu'il défend ma cause aussi, nul ne pourra me condamner, nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait et il pardonne mon péché. Et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais, lui ma justice, mon bien, ma paix. En lui j'ai la vie éternelle, par son sang il m'a racheté. Pour toujours ma vie est cachée en Jésus mon sauveur, mon Dieu. En Jésus mon sauveur, mon Dieu.
Nous allons réfléchir à l'impact dans nos vies des événements de l'Ascension et surtout la Pentecôte, ce qu'on célèbre aujourd'hui. Mais ces deux événements sont très liés l'un à l'autre, déjà très proches dans le temps, il n'y a qu'une dizaine de jours qui les séparent, et en même temps dans le sens de ce qui s'y passe. L'un annonce, l'autre réalise. Alors, Claudine nous a lu ces textes du début du livre des Actes, qui nous racontent la fin de la présence de Jésus sur terre. Ces textes qui nous racontent la venue du Saint-Esprit que Jésus avait promis pour guider les croyants, les guider dans leur mission, mission d'annoncer le salut en Jésus-Christ. Claudine a lu ces textes, je ne vais pas les relire, mais c'est bien sûr sur ces textes-là que vont se baser cette prédication. Alors ne vous en faites pas si Je ne lis pas de texte, c'est normal, nous les avons déjà lus, mais c'est sur ces textes-là que nous allons continuer à réfléchir ensemble. Alors le Christ était venu sur terre pour un temps. Au début du livre des Actes, ce temps se termine. Il retourne auprès de son Père, auprès de Dieu. Moment merveilleux pour lui, il y reçoit, d'après la Bible, toute autorité sur toute chose, assis avec le Père sur le trône. Pour ses disciples, c'est une autre histoire, moment de tristesse, de séparation. Mais ce temps se termine. Jésus était sur terre pour accomplir une mission. Et cette mission est terminée. L'être humain est en rébellion contre son Dieu. Il ne connaît pas son Dieu ou ne veut pas le connaître pour la plupart des humains. L'homme a décidé de vivre sa vie selon sa propre volonté et non selon ce que Dieu désire, alors que ce que Dieu désire, c'est la définition du bien. Et ce que Dieu ne désire pas, c'est la définition du mal, d'après la parole de Dieu. Et en faisant qu'à sa tête, bien, l'être humain s'est mis à faire le mal. Et nos fautes méritaient une sanction, ne pouvaient pas rester impunies. Mais par amour pour nous, Dieu a décidé de recevoir lui-même la sanction que nous méritions. Il l'a fait pour que nous puissions être pardonnés, réconciliés avec lui. C'était ça, la mission de Jésus sur terre. Et cette mission est un succès. Le Christ a effectivement souffert, il a été mis à mort, mais 3 jours après, il est ressuscité. On avait célébré ça le jour de la Pâque. Et depuis lors, tous ceux et celles qui croient en lui sont au bénéfice de son œuvre, de son sacrifice. Ils sont sauvés en Jésus-Christ. Sa mission est terminée. Une belle fin, un beau happy end, comme dirait le cinéma actuel. Le Christ a accompli sa mission, il peut maintenant retourner auprès du Père, auprès de Dieu, pour reprendre sa place à ses côtés et régner aux côtés du Père. Mais la mission que Dieu désire n'est pas terminée pour autant, elle ne s'arrête pas là. Il faut maintenant annoncer le salut en Jésus-Christ à toutes les nations. Jésus s'en va, ce n'est pas sa mission. C'est donc quelqu'un d'autre que Jésus, qui doit le faire. Quelqu'un doit être envoyé de la part de Jésus pour annoncer aux hommes la bonne nouvelle du salut offert par Dieu. La mission de Jésus est terminée, mais la mission, elle, continue. Elle change juste d'acteur. Une mission s'achève, une autre commence. C'est en fait un passage de témoin, d'un acteur à un autre, dans le plan de salut de Dieu pour l'humanité. C'est un passage de témoin dans tous les sens du terme parce qu'on passe maintenant à une mission de témoignage. La mission qui reste à accomplir, c'est témoigner de l'œuvre de Jésus. Le Christ est mort pour sauver les humains, il faut le faire savoir. Il faut annoncer aux hommes que s'ils croient en Jésus, s'ils se repentent de leurs fautes, alors ils seront sauvés en Christ. Ils auront ce pardon offert par Dieu, ils auront la vie éternelle auprès de Dieu. Vous comprenez toute l'importance cruciale de cette bonne nouvelle, donc de cette mission. Il faut donc des témoins, des porte-paroles qui aillent dans le monde annoncer la repentance et le pardon en Jésus-Christ. Et ces témoins, c'est Jésus lui-même qui les désigne, qui les choisit. Ce seront ses disciples. Dieu choisit ses disciples pour annoncer son message jusqu'au bout du monde, nous dit-il, en commençant par Jérusalem, puis la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. C'est la mission qu'il leur donne. Alors bien évidemment, cette mission, le Christ ne la confie pas qu'aux disciples présents avec lui ce jour-là ou présents en acte 2, au moment de la Pentecôte. Une vie ne suffirait pas pour annoncer ce message jusqu'au bout du monde, à tous les humains. Nous, chrétiens, aujourd'hui, nous sommes également les disciples de Jésus. Nous sommes également au bénéfice du même Saint-Esprit que eux ont reçu le jour de la Pentecôte. Et nous sommes aussi envoyés, missionnés, mandatés par Dieu pour être ses témoins. Nous sommes des témoins indirects, c'est vrai, mais des témoins quand même. Nous sommes témoins parce que nous avons reçu par la Bible le témoignage direct des premiers disciples. Et c'est ce témoignage que nous apportons à notre tour. Cette mission que le Christ confie à ses disciples à son époque, eh bien, il nous la confie à nous également aujourd'hui. dans ces textes, on assiste réellement à un passage de témoin. Témoin de cette mission qui passe d'une main à l'autre, témoin aussi dans l'histoire du Christ, dans l'histoire de l'Église du Christ, pardon. Parce que dans cette histoire, des témoins transmettent aux témoins suivants le message que le Christ nous a confié. Et il n'y a que le Christ qui mettra fin un jour à cette mission. Lorsqu'on nous confie une mission, on peut avoir plusieurs réactions différentes. Et c'est en fait sur ce point que j'aimerais m'arrêter ce matin. Comment réagir face au Christ qui nous confie cette mission ? Alors je sais que tous on aurait envie de répondre, il suffit de dire oui, de signer ce à quoi nous demande le contrat que nous propose le Christ et se mettre au travail. Oui, j'espère qu'on a tout ça à cœur, mais en fait on se rend compte quand même que c'est pas si facile. Et combien de croyants ont du mal à rentrer dans cette mission que Jésus nous confie. C'est une mission qui implique toute notre vie, tous les aspects de notre vie. Ce n'est pas une décision facile à prendre, ce n'est pas une décision facile à mettre en pratique. Alors comment réagir ? Pour creuser un peu cette question ce matin, je me suis dit que c'est une question pas forcément facile, alors on allait l'illustrer d'une manière un peu originale, un peu imagée. On va s'appuyer ce matin, je vous propose, sur une œuvre littéraire non chrétienne, mais écrite par un chrétien. Une œuvre dans laquelle l'auteur s'est grandement inspiré de la Bible et surtout de cette mission du Christ et de l'Église, de ce passage de témoin, d'un témoin à un autre. Une œuvre que je pense à peu près tout le monde connaît ici, une œuvre dans laquelle ceux qui sont envoyés pour cette mission qu'ils se transmettent en souffrent pas mal, donc je pense que ça peut nous rejoindre dans notre vie. Cette œuvre, je pense que vous la connaissez, mais peut-être vous ne l'avez jamais vue sous cet angle-là, parce que tout le monde ne sait pas que cet auteur très connu est chrétien. Cette œuvre, c'est celle de John Ronald Reuel Tolkien, J.R.R. Tolkien, le père de l'heroic fantasy moderne, l'auteur, et là je pense que vous connaîtrez, du livre notamment Bilbo le Hobbit et du chef-d'œuvre Le Seigneur des Anneaux. Dans ses œuvres, Tolkien, qui était croyant, c'était un grand ami de C.S. Lewis, celui qui a écrit Narnia, qu'on connaît aussi, mais lui qui était un théologien, qui écrivait des livres de théologie. Ils étaient très copains tous les deux. Dans ses œuvres à lui, les œuvres Lewis, lui, c'est presque des livres de théologie en images. Tolkien, il a un peu plus imaginé, mais il s'est beaucoup inspiré des récits bibliques, parce qu'il était chrétien, croyant lui-même. Et il a notamment amplement utilisé dans ses livres ce thème de la mission, de l'appel, de la transmission de cette mission d'un personnage à une autre, ainsi que les thèmes du sacrifice de soi et de l'engagement qui touche la vie tout entière et qui impacte sur la vie de ceux impliqués dans la mission. C'est pour ça que j'ai trouvé intéressant ce matin d'illustrer notre réflexion biblique par des extraits des adaptations cinématographiques de ces œuvres. Et je le rappelle, notre question, c'est comment réagir à l'appel du Christ, à la mission qui nous est confiée. Alors, je vous propose de regarder certains extraits vidéo qui vont nous aider à réfléchir un peu sur plusieurs manières de répondre à cet appel, à cette mission du Christ. Et on va justement commencer notre réflexion par un premier extrait du film Bilbo le Hobbit, qui vient en tout début de ce film-là. Je le rappelle, ces textes sont là pour illustrer un peu notre réflexion. Ce n'est pas la parole de Dieu, bien entendu, mais ça vient nous aider peut-être à réfléchir.
Puis-je vous aider ?
C'est ce que nous verrons. Je cherche quelqu'un pour prendre part à une aventure.
Une aventure ? Non, je ne vois personne à l'ouest de Brie qui se montrerait intéressé par des aventures. Ce sont des choses désagréables qui ne vous apportent que des ennuis et retardent votre dîner. Ça va aller. Il faut seulement que je reste assis tranquillement.
Vous restez assis tranquillement depuis bien trop longtemps.
Dites-moi, depuis quand les napperons et la vaisselle de votre mère sont-ils si importants à vos yeux ?
Je me souviens d'un jeune hobbit qui courait sans cesse les bois à la recherche des elfes, qui ne rentrait au logis qu'à la nuit tombée, en laissant dans son sillage de la boue, des brindilles et des lucioles. Un jeune hobbit qui aurait été trop heureux de découvrir ce qu'il y a au-delà des frontières de la comté. Le monde n'est pas dans vos livres et dans vos cartes. Il est là, dehors.
Alors, dans cet extrait, nous voyons une première manière de réagir face à la mission qui nous est confiée. Nous y voyons une personne qui a une vie paisible, confortable, stable, heureuse. Ces choses sont bonnes. La Bible nous dit même que pouvoir jouir d'une telle vie, c'est un don, un cadeau de Dieu. Mais quand cette personne se trouve confrontée à la mission qui lui est donnée, elle a peur. Elle a peur de l'inconnu. Elle a peur des changements qui pourraient survenir dans sa vie. Peur de perdre tout ou partie de son confort de vie. Peur aussi du monde extérieur qu'elle connaît peu ou mal. Ce personnage a toujours lu des livres qui lui parlaient du monde. Mais comme le personnage, le mage Gandalf, le dit si bien, le monde ne se trouve pas dans vos livres ni dans vos cartes. Ce personnage nous ressemble beaucoup, je trouve. Nous, chrétiens, nous tenons beaucoup à l'étude de la Bible, la parole de Dieu. Nous cherchons aussi le plus possible à vivre des moments fraternels entre nous. Et ces choses sont très bonnes. Elles sont même nécessaires, elles sont essentielles, primordiales pour nous nourrir, pour grandir nous-mêmes en Christ. Mais la mission que le Christ nous a confiée, c'est d'apporter son message au monde. Et le monde ne se trouve pas dans nos livres. Le monde ne se trouve pas dans notre Bible. Il est là, dehors. À quoi servirait de connaître en profondeur le message du Christ si nous ne répondons pas à son appel d'apporter ce message au monde ? Notre étude personnelle ou communautaire de la parole de Dieu doit avoir pour but l'annonce de cette même parole. Développer notre amour fraternel, lui aussi, doit avoir pour but de nous aider à aimer ceux et celles qui se perdent actuellement loin du Christ. Une vie paisible, confortable, stable, heureuse, comme celle du personnage de cet extrait, c'est un don de Dieu, c'est vrai. Et globalement, dans notre pays, le confort est un cadeau assez répandu. Mais ce cadeau ne doit pas devenir un obstacle à la volonté de Dieu pour nous. Il est normal d'avoir peur face à l'ampleur d'une mission pareille. C'est une mission qui nous dépasse, il faut l'avouer. Annoncer un message à tous les hommes de la terre, c'est un peu affolant, inimaginable. Il est normal d'avoir peur parce que nous sommes des créatures limitées. Nous ne pouvons pas accomplir cette mission seuls, par nous-mêmes, avec nos moyens, avec nos forces. C'est pour ça qu'au moment de quitter ses disciples, le Christ leur annonce qu'il va leur envoyer une aide, une puissance, son esprit en eux, pour les guider, pour leur donner cette force, pour leur donner le courage, pour leur donner les dons nécessaires afin qu'ils puissent répondre enfin à cet appel et accomplir cette mission qui leur est confiée, cette venue du Saint-Esprit, cet événement de la Pentecôte. Avant sa venue, les disciples, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont entre eux dans une maison. Mais après sa venue, ils sortent de la maison. Ils vont dans le monde pour commencer à être les témoins du Christ. Ça prouve que c'est bien le Saint-Esprit de Dieu et lui seul qui nous rend capables d'être des témoins. C'est normal d'avoir peur, mais ça ne doit pas nous amener à refuser la mission que le Christ nous confie. Nos craintes ne doivent pas nous pousser à rester confortablement entre nous, dans ces murs ou même dans nos Bibles, qui parfois nous chamboulent, mais parfois est si rassurante pour nous. Nos craintes doivent simplement nous pousser à nous confier en Dieu, avoir confiance dans les forces que lui seul peut nous donner par son Saint-Esprit. Comment réagir face à cette mission ? Nous pouvons y réagir par la peur et par le refus. Mais encore, nous allons regarder ensemble un deuxième extrait, cette fois du premier opus de la trilogie, Le Seigneur des Anneaux. Un extrait dans lequel nous voyons un deuxième personnage à qui cette même mission est confié et qui réagit différemment. Alors on va pouvoir lancer le deuxième extrait vidéo.
L'anneau ne peut être détruit, Gimli, fils de Gloin, par aucun moyen en notre possession. Il faut l'emporter dans les profondeurs du Mordor et le jeter dans l'abîme flamboyant d'où il est apparu autrefois. L'un de vous doit le faire.
Je vais le faire!
Et vous n'en avez que faire de mon peuple, ce sera la chute du Mordor.
Je vais le faire!
Je vais porter l'anneau en Mordor. Bien que... je ne connaisse pas le moyen.
Dans cet extrait-là, nous voyons une mission qui doit être accomplie, vitale, et il y a deux types de personnes qui sont réunies. Nous avons d'un côté les puissants, les guerriers, les rois, les mages, qui sont en train de se disputer pour savoir qui est le plus légitime pour accomplir cette mission. Ils pensent en être dignes, chacun d'entre eux, mais ils pensent que les autres ne le sont pas, pas autant qu'eux-mêmes. Et il y a une dernière personne, cette personne qui n'est ni un roi, ni un guerrier redoutable, ni un mage très puissant, qui mesure à peu près la moitié de la taille des autres. Il a peur, ça se voit dans ses yeux, dans son regard. Il avoue ne pas savoir comment faire pour accomplir la mission qui est proposée, et je pense qu'il nous ressemble beaucoup. Pourquoi le Christ nous confie-t-il la mission d'être ses témoins, ses porte-paroles, ses représentants? Parce que nous sommes des personnes influentes, puissantes, extraordinaires, célèbres. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes comme cela parmi nous, parce que Dieu n'a pas besoin de personnes extraordinaires. C'est lui qui est extraordinaire, pas nous. Mais Dieu cherche des personnes humbles, fidèles et volontaires, tout simplement. La force, la sagesse, le courage, les dons nécessaires à l'accomplissement de la mission, c'est Dieu qui nous les donne par son esprit en nous. Nous n'avons pas besoin d'être prêts pour cette mission. C'est Dieu qui nous équipe pour la mission. C'est son esprit qui nous rend capables d'être ses témoins. Avoir peur n'est pas une faute. Ce personnage tremble presque de peur. C'est normal parce que, comme ce héros, nous sommes faibles, petits. Petits face à l'ampleur de la mission que Dieu nous confie. Petits face à ce qui est en jeu, le salut de tant de personnes. Mais malgré tout, comme lui, tout en ayant conscience de nos limites, de nos faiblesses qu'il nous faut accepter, reconnaître, il nous faut pouvoir nous lever et dire « je vais le faire » parce que c'est ce que Dieu attend de nous, que nous répondions favorablement à son appel, que nous comprenions l'importance et l'urgence de cette mission et que nous agissions en disciples, humbles, fidèles et volontaires pour être les témoins du message d'amour et de salut que Dieu adresse au monde, qu'il nous a adressé à nous également. Comment réagir face à la mission que Dieu nous confie? Nous pouvons l'accepter, malgré nos craintes, malgré nos faiblesses. Nous pouvons dire avec le même zèle que ce personnage qui se lève quand même avec énergie pour dire « je vais le faire » et qui ensuite prend un peu conscience de ce que ça signifie et dit avec crainte « bien que je ne connaisse pas le moyen ». Mais ça, c'est un premier pas, le moment où l'on accepte, où l'on se consacre à Dieu, où l'on lui offre notre vie pour qu'il l'utilise selon sa volonté. Mais qu'en est-il sur la durée? Est-ce que ce personnage a toujours vécu d'une manière aussi énergique, zélée, à sa réponse à sa mission? Pour y réfléchir, on va d'abord regarder ensemble un troisième et dernier extrait vidéo de cette œuvre de Tolkien. On va regarder plusieurs moments où ce personnage s'arrête un peu et fait le point sur ce qu'il est en train de vivre dans sa mission.
Je voudrais que l'anneau ne soit jamais venu à moi. Que rien de tout ceci ne se soit passé.
Comme tous ceux qui vivent des heures si sombres, mais ce n'est pas à eux de décider. Tout ce que nous devons décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti.
C'est comme dans les grandes histoires, monsieur Frodon. Celles qui importaient vraiment. Celles où il y avait danger et ténèbres. Les personnages de ces histoires avaient 36 occasions de s'en retourner, mais ils ne le faisaient pas. Ils continuaient leur route. Parce qu'ils avaient foi en quelque chose.
En quoi avons-nous foi, Sam ?
Il n'y a pas que le premier pas qui soit difficile. Le chemin qui suit peut l'être tout autant, voire même plus. Et des milliers, des millions de croyants dans ce monde le vivent bien plus fortement que nous, ici en France. Faire le pas de répondre à l'appel que le Christ nous lance, ce n'est pas se lancer dans une vie où Dieu nous promettrait la joie, la prospérité, la félicité parfaite. C'est une lutte, c'est vrai. Nous pouvons rencontrer l'opposition, la moquerie, la haine, ou même, tout simplement, l'indifférence. Et même si nous avons l'Esprit de Dieu en nous pour nous donner la force d'avancer, il y a fatalement des moments où nous pouvons regretter. Regretter la stabilité, l'insouciance de notre vie d'avant. Regretter ce confort que nous avons peut-être quitté, regretter notre choix. Nous pouvons aussi nous décourager devant les difficultés ou devant le manque de fruits visibles, devant l'indifférence de nos contemporains, devant l'immensité de ce qu'il reste à faire. Nous pouvons même douter. Douter de nous-mêmes déjà, parfois même douter de Dieu, douter de notre foi, de sa fidélité. Le héros de l'œuvre de Tolkien passe par tous ces états durant son périple. Et nous pouvons aussi en passer par là durant notre vie chrétienne. Alors comment ? Comment continuer malgré tout ? Comment ne pas céder au regret, à la facilité, au découragement, au doute ? C'est le compagnon du héros qui nous donne la réponse. Ceux dans la difficulté ont 36 occasions de rebrousser chemin, mais ils ne le font pas parce qu'ils ont foi en quelque chose. Et le héros de poser alors la question : en quoi avons-nous foi ? En quoi avons-nous foi ? Nous avons foi en un Dieu d'amour et de justice, un Dieu qui, par amour, a donné sa vie, la vie de son Fils, pour que les hommes puissent être pardonnés, qu'ils puissent être sauvés. Nous avons foi dans la fidélité et la puissance de ce Dieu. Nous avons foi dans son Esprit, qu'il nous accorde pour pouvoir le connaître, pour avoir une relation personnelle avec lui, c'est vrai, mais aussi pour agir comme il le souhaite. Nous avons foi dans ce Dieu qui nous a adoptés comme ses enfants, qui a fait de nous tous des membres de sa famille. Il a fait de nous ses héritiers. Et sa volonté, celui du père de la famille, doit devenir notre volonté propre. Nous avons foi dans l'importance cruciale de cette mission que le Christ a confiée à ses disciples, à son Église. Et nous avons foi dans la puissance de son Saint-Esprit qui nous rend capables, lui seul, d'être des témoins du Dieu vivant. Voilà en quoi nous croyons. Voilà en quoi nous avons foi. Et c'est notre foi qui nous maintient sur le bon chemin malgré les difficultés, les craintes, les regrets, les doutes. Notre foi personnelle, mais aussi notre foi collective. Parce que si nous sommes réunis, si nous sommes rassemblés en communauté, si Dieu nous a unis, c'est parce que seul, isolé, la mission nous dépasse. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin de nous soutenir, de nous encourager. Nous avons besoin d'œuvrer ensemble à la mission que le Seigneur nous confie. S'il nous a unis, s'il a fait de nous une famille, s'il a fait de nous un corps, pour reprendre la métaphore que l'apôtre Paul utilise souvent dans les épîtres, c'est aussi dans ce but, répondre répondre collectivement, ensemble, à l'appel que le Seigneur nous a lancé, à la mission que Dieu nous a confiée. Les textes que nous avons lus par Claudine tout à l'heure marquent la fin de la mission du Christ sur cette terre, mais ils marquent également le début de la mission de l'Église par la venue du Saint-Esprit. C'est un passage de témoin. L'ampleur et l'importance de cette mission peuvent nous effrayer, nous décourager, c'est vrai, mais souvenons-nous que ce n'est pas par nos propres forces que nous avançons. C'est avec les forces que Dieu nous donne, par son Esprit. Ces forces qu'il nous accorde pour répondre ensemble à son appel, pour grandir ensemble dans notre maturité spirituelle, mais aussi dans notre témoignage envers ce monde. Et justement, eh bien, c'est ensemble que nous voulons aussi apprendre à témoigner. Et nous allons le faire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement témoigner ? Comment le faire ? Comment y travailler ensemble, mais aussi chacun dans notre vie personnelle ? Comment savoir quoi dire, quoi transmettre à ceux qui ne connaissent pas le Christ ? Comment faire ? Nous réfléchirons à tout ça ensemble. Nous aurons aussi des ateliers très concrets, hein, peut-être pour nous apprendre à témoigner très simplement autour de nous, si ce n'est pas quelque chose de naturel, de facile dans notre vie. Nous pouvons continuer à être des témoins du Christ, que ce soit par des paroles simples. Témoigner ne veut pas dire enseigner l'Évangile. Témoigner veut simplement dire raconter. Raconter soit ce que Dieu a fait dans l'histoire, dans sa parole, soit ce que Dieu a fait dans ma vie. Je peux témoigner par des paroles simples, je peux témoigner par des actes d'amour. C'est ce que j'aimerais vous inviter à faire tout au long de votre vie, si vous voulez répondre favorablement à cet appel du Christ pour vous. Ne vous inquiétez pas, on va s'y essayer, le faire, s'y entraîner même ensemble, nous encourager en communauté pour cela. J'aimerais simplement, pour terminer cette prédication, vous inviter à répondre à ce message par un cantique. Ce cantique qui s'intitule « Règne en moi ». Répondons-y si nous voulons réellement que le Christ règne en nous par son Saint-Esprit, c'est-à-dire que sa volonté devienne la mienne, que son projet pour moi devienne mon projet, que la mission qu'il désire pour nous devienne celle que nous acceptons.
Donc nous allons voir les annonces qui vont s'afficher. Eh bien, c'est vrai, cette marche, cette communion, cette école de Dieu à laquelle nous sommes tous élèves, elle ne se pratique pas que le dimanche, bien sûr. Elle se pratique chaque jour de notre vie. Elle se pratique ensemble. Dans le livre des Actes, nous voyons qu'ils étaient tous ensemble assidus au temple. Ils partageaient le pain avec joie et simplicité de cœur dans les maisons. C'est pourquoi nous vous invitons à participer aux réunions de maison. Si vous ne savez pas où c'est, demandez, on vous expliquera. Parce que la force de l'Église, elle réside vraiment dans la communion des membres. Et un auteur du IIe siècle qui s'appelait Tertullien a pu dire « Voyez comme ils s'aiment », disaient les gens en parlant des chrétiens. Ils sont prêts à mourir les uns pour les autres. Ces gens étaient étonnés de rencontrer des hommes et des femmes qui vivaient dans l'entraide, le partage, dans une vraie fraternité, qui prenaient soin des orphelins, des pauvres et des prisonniers. Voilà ce témoignage que l'Église des premiers siècles rendait, ce témoignage qui faisait dire aux gens « Voyez comme ils s'aiment ». Eh bien, c'est ce que nous nous attachons à vivre. Comme nous le dit Jeff, ce n'est pas tous les jours facile. Il faut surmonter des difficultés, des découragements, toutes sortes d'épreuves. Mais voilà, à vaincre sans triomphe. Non, comment c'est l'expression je ne sais plus. On triomphe sans gloire si on n'a pas surmonté toutes ces épreuves. Donc c'est vrai que la vie est une suite d'épreuves, mais nous avons quelqu'un, voilà, qui est là, qui est le Saint-Esprit. Il vient pour venir dans nos vies et nous fortifier. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Ça y est, je l'ai retrouvé.
Rodrigue, extrait du cite de Corneille.
Donc nous allons vous remercier tous pour ce culte. Merci d'avoir été là, merci d'avoir été attentif, d'avoir participé. Et nous allons terminer dans un chant de proclamation. Acclamez Dieu.
Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu, tu es grand, tu es grand, grand et glorieux, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu, tu es roi, tu es roi, fort et redoutable, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu, ta puissance. Oui, tous nos liens, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu, tes louanges éclatent dans nos cœurs, éclatent dans nos cœurs, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu.